Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.com. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur les facteurs externes de stagnation et sur trois points précis auxquels il faut prêter attention pour ne pas saboter ses efforts santé. Parce que vous l'aurez compris, mettre en place une alimentation réduite en glucides, ce n'est pas perdre du poids en privant notre corps, mais bien rééquilibrer notre métabolisme en lui apportant ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Parce que ce n'est qu'en étant en bonne santé qu'il pourra déstocker durablement ce qu'il a accumulé pendant des années de déséquilibre. Et oui, clairement, ce rééquilibrage passe essentiellement par l'alimentation. La plupart des experts en nutrition, quelle que soit leur paroisse, disent tous que la perte de poids se joue à 80% dans l'assiette. Sauf que si c'est vrai à court terme, quand on rentre dans une démarche santé qui implique une perte de poids durable, mais aussi et surtout un vrai équilibre métabolique, on ne peut pas ignorer les autres facteurs qui empêchent ce retour à l'équilibre optimal et donc peuvent saboter la perte de poids, voire la santé. Ils sont multiples et ils sont cumulatifs. Tous ne sont pas contrôlables, parce que ce sont des facteurs externes et donc par définition, nous en subissons souvent les conséquences. Mais les connaître et les comprendre permet également de faire un peu mieux sur certains sujets. J'ai choisi de me concentrer sur les 3 S dans cet épisode. Il y en a beaucoup d'autres, mais ces 3-là constituent, à mon sens, l'essentiel et sont les plus contrôlables. Sommeil, soleil et stress. Et vous allez voir qu'ils sont très corrélés les uns aux autres. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier gros caillou qui peut poser problème, un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité. Il n'y a pas de secret, c'est pendant les phases de sommeil que le corps se régénère, que les hormones s'équilibrent, que le cerveau se nettoie. Je vois fréquemment, sur le suivi des personnes que j'accompagne, une amélioration de leur perte de poids quand ils réussissent à appliquer mes conseils en matière de sommeil. Et à l'inverse, un plateau, voire une reprise lorsqu'ils ont des nuits plus compliquées. Alors, évidemment, si vous travaillez la nuit ou si vous avez un bébé qui fait ses dents, vous ne pourrez pas dormir 8 heures d'affilée tous les jours. Mais là aussi, la stratégie du moins pire, voire la stratégie du mieux, s'applique. Il ne s'agit pas de dormir absolument 9 heures par nuit toutes les nuits, mais de mettre en œuvre les petites choses qui, cumulées, amélioreront votre sommeil. Vous avez sommeil à 21 heures ? Allez vous coucher ! Au lieu de vous forcer à regarder un épisode supplémentaire de votre série préférée. Parce que non, se reposer en mode coach potato devant la télé, ça n'est pas pareil que de dormir vraiment. D'ailleurs, si vous avez des difficultés à vous endormir, il vaut mieux arrêter les écrans en début de soirée pour éviter la stimulation de la lumière artificielle et passer à un bouquin, un vrai, en papier ou sur une liseuse à écran passif. Évitez également le café ou le coca zéro, surtout à partir de 14-15 heures, et prenez l'habitude de dîner tôt quand c'est possible, parce que les dîners tardifs retardent le moment où votre métabolisme sera vraiment au repos. Bref, de la même manière que vous avez instauré une routine nourriture en anticipant sur les courses et la préparation des repas, instaurez une routine sommeil en anticipant sur vos obligations et en faisant de la qualité de vos nuits une priorité. Deuxième gros caillou, pour le coup, le soleil, ou plutôt le manque de soleil. Ça n'est un secret pour personne, le soleil est indispensable à la vie. On nous a assez expliqué qu'il fallait s'exposer au moins 20 minutes par jour pour faire le plein de vitamine D dernièrement. Mais le soleil a une multitude d'autres bienfaits sur le corps. Et quand on dit soleil, on ne parle pas forcément de faire rôti de porc sur une plage, mais bien de s'exposer à la lumière du jour. Vous saviez que le foie est un organe luminosensible, par exemple, et qu'il fonctionne mieux, donc, quand on expose son ventre à la lumière du jour? Sans parler de la sécrétion de sérotonine qui augmente, améliorant notre humeur et favorisant le sommeil, l'amélioration des maladies de peau comme l'eczéma ou le psoriasis, la diminution de l'état inflammatoire, la baisse du niveau d'insuline, bref, s'exposer à la lumière du jour tous les jours est vraiment primordial. Là encore, on n'a pas tous la chance de pouvoir sortir du bureau au beau milieu de la journée. Même si franchement, c'est pas très compliqué de sortir faire le tour du pâté de maison à la pause déjeuner. Mais il est important de favoriser les activités en extérieur dès que possible. Au lieu de lire dans votre canapé, allez lire sur un banc, au parc. Idem pour votre série préférée que vous pouvez tout à fait regarder sur votre téléphone. Préférez la marche ou le vélo pour aller faire vos courses. Faites des pauses sur votre balcon ou dans votre jardin si vous êtes en télétravail. Portez plutôt des casquettes que des lunettes de soleil pour ne pas bloquer les signaux des UV qui activent votre cerveau. Bref, là encore, faites du mieux possible en favorisant toujours une activité extérieure quand c'est possible, même pour quelques minutes, chaque jour. Dernier gros rocher de cet épisode consacré aux facteurs externes de stagnation, et pas des moindres, le stress. J'aime bien parler de stress inévitable et de stress évitable d'ailleurs. Le stress inévitable est souvent mental, lié à des obligations qu'on a ou qu'on pense avoir, à des agressions sociales, à des problèmes relationnels. Il peut être physique aussi, parce qu'on a un travail éprouvant ou un environnement bruyant ou des horaires décalés. Ce stress-là peut se compenser en pratiquant de la relaxation, du yoga, en prenant le temps de s'exposer à la lumière du jour, en mettant en place des routines saines d'alimentation et de sommeil. Et puis, il y a le stress que je qualifie d'évitable et sur lequel j'encourage vraiment les personnes que j'accompagne à travailler. Mettre en place une meilleure organisation, par exemple, pour mieux anticiper les semaines au planning compliqué en ayant des repas tout prêts au congélateur et s'éviter la course de dernière minute et le gros coup de stress qui va avec parce qu'on a oublié qu'il fallait emmener le petit dernier chez l'orthophoniste. Travailler aussi sur ses réactions au tracas du quotidien. Comme je le dis souvent, le bonheur, ça n'est pas l'absence de problèmes, c'est juste la façon dont on les aborde. Tout le monde a des problèmes, des petits, des gros. Tout le monde a des casseroles du passé à traîner et un présent pas toujours facile. Apprendre à se détacher des petits tracas, remettre les choses en perspective, ça permet d'éviter de ruminer et de profiter de l'instant présent et donc de se libérer du stress. Personnellement, j'applique depuis de nombreuses années une méthode très simple quand quelque chose m'énerve. Je me demande toujours si j'aurai la même colère quand j'y repenserai dans un mois ou dans un an. Si la réponse est non, c'est que c'est une émotion qui ne devrait pas m'atteindre. Et je peux vous assurer que ça en écarte un paquet. Bref, prenez soin de vous. Mais prenez soin de vous vraiment. Prenez soin de votre santé, prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre mental, parce que personne ne le fera à votre place. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute.